段，
没有中断。
Bonsoir à tous et à toutes, vous êtes bien sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM dans l'émission Mode d'Emploi. Mode d'Emploi est l'émission des chômeurs et précaires. Ce soir je suis avec Ludo, bonjour Ludo.
Bonsoir. Voilà.
Et Thierry.
Bonsoir.
Toujours Claude, super Claude à la technique et Gilles, votre serviteur, au micro également. Voilà, donc ce soir nous parlerons bien sûr de la chose qui fâche le plus, c'est les chiffres du chômage qui ont augmenté. Peut-être atteindrons-nous le pic des années 90, fin 90 du Pôle emploi qui est complètement débordé. Nous parlerons également de l'accord de sécurité pour l'emploi de l'ANI, donc qui a été plus ou moins maîtrisé par le MEDEF. Hein, c'est le MEDEF qui a gagné dans cette histoire. Nous en parlerons également. Avec deux interventions, donc de Catherine Lebrun, donc de Solidaires Pôle emploi, et de Martine Billard, donc numéro 2 Fonds de gauche. Voilà. Nous finirons bien sûr par parler du rapport de l'OIT sur l'emploi en 2012. Et voilà, c'est l'émission qui commence. Donc, nous allons commencer par quelque chose qui fâche, puisque les chiffres de chômage ont augmenté, ont très, très bien augmenté. Enfin, on atteint peut-être un pic, un sommet, là, Ludo, pour le coup. Est-ce qu'on peut dire que ces chiffres ont effectivement égalé les chiffres de 1997? Il me semble que c'était dans ces années-là que...
Oui, 1997, bah oui et non, puisqu'on n'y est pas encore. Sauf qu'en fait, si on met les dom-toms, on y est. Bon, mais les dom-toms sont toujours... c'est toujours un cas à part, donc c'est pour ça qu'on les sort des statistiques, puisque le chômage dans les dom-toms est beaucoup plus important. Et bon, c'est un peu différent de la France métropolitaine, mais en fait, j'ai envie de dire, peu importe, on s'accroche à un chiffre symbolique, 1997, hein, mais c'est ridicule, sachant qu'en fait, on va largement dépasser le chiffre dans les mois qui viennent, quoi qu'il arrive, a priori. Hein. Et donc voilà, donc on en parlera tout à l'heure. L'INSEE prévoit 74 000 suppressions d'emplois dans les emplois marchands. Enfin donc, a priori, soumis plus ou moins à la concurrence. Enfin, disons des emplois qui ne sont pas des emplois aidés, qui ne sont pas des emplois du secteur public. Donc voilà, donc plus 74 000 chômeurs, bah, vous voyez. Donc pour vous donner une idée, alors on en a déjà parlé il y a 15 jours, mais on est obligé d'en reparler maintenant. Donc ça, c'est les chiffres de la DARES de fin février 2013. Donc il y a une augmentation de 18 400 chômeurs en plus. Juste au mois de février, de chômeurs en catégorie A. Ça représente donc effectivement, on a passé le seuil symbolique des 3 millions, on est à 3 187 700, donc proche des 3 200 000 chômeurs.
Déclarés.
Chômeurs total, ou déclarés effectivement à la NPE, oui. Mais qui n'ont pas travaillé à une heure dans le mois précédent. Et donc ça représente une augmentation de 10,8% en un an. Donc. En moyenne, donc sur un an, hein, ça fait 26 000 chômeurs supplémentaires chaque mois. Donc c'est énorme. Sur l'ensemble des demandeurs d'emploi, donc tenus à une recherche d'actifs d'emploi, hein, puisqu'ils sont à Pôle emploi, donc c'est ce qu'on appelle nous les catégories A, B et C, c'est-à-dire qu'on compte dedans le temps partiel, la hausse est de 26 000 chômeurs ce mois-ci. Hein, soit 9,8% d'augmentation sur un an. Donc cette progression s'inscrit dans une tendance. Et là, je précise que je lis le communiqué de presse du ministère du Travail, hein, et de l'Emploi qu'il a diffusé auprès des journalistes, donc pour le 26 mars. Hein. Donc, cette progression s'inscrit dans une tendance observée en réalité depuis près de 5 ans pour les demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi, donc en catégorie ABC. La hausse est ininterrompue depuis mai 2008, soit depuis 57 mois. Oui, pourquoi c'est une précision? Parce que lors des derniers chiffres... de la dernière parution des chiffres mensuels du chômage, on avait dit que c'était une hausse consécutive de 21 mois. Oui, mais là, on prend en moyenne, c'est-à-dire qu'il y a réellement eu un mois de baisse, exactement en août 2010. si on ramène à la moyenne, on a effectivement une augmentation de 5, des chiffres du chômage sur 57 mois, soit en fait, grosso modo, depuis le début de la crise, c'est-à-dire depuis mai 2008. Voilà, donc ça, c'est pour les chiffres un peu généraux. Cette hausse est aussi marquée depuis février 2008 sur 5 ans. Pour la catégorie A, parce que là on comptait l'ensemble des inscrits à Pôle emploi. Donc pour les chômeurs inscrits en catégorie A, c'est sur 5 ans, 60 mois, il y a eu 8 mois de baisse, donc il y a eu une espèce de reflux donc en 2010. Voilà, et 52 mois de hausse. Bon, ça vous fait voilà, ça vous donne une petite idée des dégâts.
Thierry.
Ouais, comme on écoutait Hollande en parler hier sur la crise du chômage, il disait que ben non, c'est normal qu'il y ait une crise importante de chômage, mais en septembre, ça devrait baisser vu qu'il y a des enseignants qui vont être mis en poste, qui va rééquilibrer le chômage et la SNCF va embaucher certains dans les postes de la SNCF.
Bon, bah écoute, on n'est pas devin, donc on
verra bien.
Voilà. Oui. Et puis, sachant que cela signifierait qu'en fait, c'est l'emploi public en fait qui viendrait à la rescousse de. C'est le volontarisme de l'État, et donc d'employer des gens, effectivement, donc à la SNCF, qui reste quand même une entreprise où l'État regarde l'enseignement, qui permettrait éventuellement de faire baisser le chômage. Bon, oui, mais enfin, ça compensera pas forcément les destructions d'emplois à côté, quoi. Hein, ça, c'est clair. Je voulais juste préciser que on avait, pour donner quand même une idée des chiffres, on avait à peu près 600 000 personnes, un peu plus de 600 000 personnes, qui travaillaient en plus hein, des 3 millions 100 000 personnes au chômage, 187 000 personnes au chômage total. On avait 600 000 personnes qui étaient au chômage à temps partiel et donc qui travaillaient moins d'un mi-temps au cours du mois écoulé. Donc des gens qui étaient en recherche d'un emploi de plus d'heures pour travailler, d'un emploi à temps plein. À ce à quoi il fallait ajouter 894 000 personnes qui travaillaient plus d'un mi-temps, mais qui étaient, elles, recherchaient un autre emploi ou un emploi avec plus d'heures pour pouvoir avoir des revenus un peu plus décents, quoi. Donc, si vous faites la somme des trois catégories, eh bien, ça vous porte le total hein, à 4 700 000 personnes qui sont, on peut considérer quelque part, qui sont au chômage, en fait. Hein. Voilà, et évidemment, sans compter les emplois aidés. Aujourd'hui, on compte à peu près 350 000 personnes qui sont en emploi aidé, et sans compter en plus les chômeurs inscrits à Pôle emploi, mais qui sont non disponibles pour diverses raisons, c'est-à-dire arrêt maladie, maternité, stage, ce qui représente à peu près 260 000 personnes. Donc au total, là, on atteint facilement, juste en métropole, les 5 300 000 personnes au chômage, enfin inscrits à Pôle emploi, auquel il faut rajouter 90 500 personnes seniors qui sont indemnisées, mais qui bénéficient de la dispense de recherche d'emploi. Donc on dépasse les 5,7 millions d'inscrits dans ce cas-là.
Ce qui est énorme, énorme, énorme.
Ce qui est absolument énorme, effectivement.
Il faut savoir, excuse-moi de t'interrompre, mais il faut savoir que dans le cadre de Pôle emploi, enfin du chômage en général, c'est 1000 inscrits nouveaux qui arrivent par jour. 1000 chômeurs supplémentaires
en moyenne.
C'est quand même énorme. Quoi,
énorme, et bon, évidemment, comme on l'a souvent dit à cette antenne, c'est évidemment les jeunes qui payent le prix le plus cher, les jeunes, les intérimaires et les seniors aussi, hein, dont les gens qui sont inscrits à Pôle emploi se montent à peu près à 967 000 personnes, dont 52% de femmes. On peut continuer hein, sur les chiffres, sur le chômage de longue durée, sur la moyenne d'inscription, si vous voulez, à Pôle emploi est aujourd'hui de 16 mois. Donc ça représente, c'est plus d'un an. Un an et quatre mois, c'est énorme. Et la moyenne d'inscription des sortants, donc ceux qui ont retrouvé un emploi, est de 8,5 mois. Voilà.
D'accord.
Dernière chose, en fait, il faut savoir qu'effectivement, puisqu'on va parler tout à l'heure hein, de des destructions d'emplois à venir, c'est toujours les intérimaires qui payent le plus lourd prix sur le marché du travail. C'est-à-dire que aujourd'hui, les CDD et donc les intérimaires représentent 30% des personnes qui s'inscrivent au chômage, sachant qu'une large partie aussi est le fait d'inscription de nouvelles personnes qui arrivent sur le marché du travail, donc de jeunes qui sont sans travail.
Ludo, si tu étais à la place du ministre de l'Emploi, quelle est la méthode stratégique tu ferais pour que le chômage soit un peu en baisse porte?
Excuse-moi, je vais faire le ministre de l'Emploi à la place de Ludo. Enfin, Ludo pourra,
Michel Sapin. Non.
Michel Sapin. Ludo pourra éventuellement reprendre la barre derrière. Moi, je considère que pour relancer l'emploi, il y a des choses faciles à faire. Enfin, facile. C'est une question de volonté politique. Déjà, interdire les délocalisations des entreprises qui font des bénéfices et les licenciements abusifs, on va dire. Il y a également effectivement la taxe Tobin au niveau européen qui pourrait être mise en place. Hein, donc, taxer les riches parce que c'est les riches qui ont de l'argent, donc c'est à eux de participer le plus à l'effort de guerre, on va dire.
Taxer les CDD plus que les riches à la limite. Il y a une différence entre taxer les ménages et puis enfin les fortunes les plus riches.
Bien.
Non, parce que les entreprises.
L'idée n'est pas mauvaise en fait, on peut en discuter, mais l'idée de taxer à 75% maintenant à 66% les ménages ou les individus qui ont plus d'un million d'euros par an. C'est pas une si mauvaise idée que ça, à la limite. Je veux dire, ouais, bon.
Mais apparemment, c'est anticonstitutionnel, d'après la décision du Conseil d'État. Mais ce que je propose, en fait, c'est d'en reparler tout à l'heure, ouais. Puisque, en fait, on va parler du rapport de l'OIT sur le travail, et justement, c'est peut-être pas pour la première fois, mais en tout cas, l'OIT, il y a une nette inflexion de l'OIT sur les politiques d'austérité et les politiques de dérégulation du travail. Et donc, ça, c'est assez important qu'un organisme international qui n'est certes pas le FMI ni l'OCDE, donc qui est un organisme qui s'occupe du travail et donc qui est le premier concerné par le chômage, que les économistes de l'OIT recommandent publiquement une politique différente. Et on en parlera tout à l'heure. Voilà, je voulais juste finir, hein, si on a le temps. Voilà, sur cette prévision, donc effectivement, de l'INSEE, qui s'attend à 74 000 destructions d'emplois d'ici juillet. Et comme on l'a dit, en fait, dans les secteurs marchands, principalement, donc il faut compter l'industrie et les services. Alors, c'est beaucoup. En fait, c'est énorme. C'est-à-dire que ça va porter le taux de chômage à peu près à 11%. 10,7 exactement. Et mais en même temps, c'est moins que les destructions d'emplois sur les 6 mois précédents. Donc c'est pour dire qu'on vient de passer une année noire, enfin une année assez assez glauque en termes de d'augmentation du chômage. Et comme je le disais aussi, l'ajustement en fait dans les services se fait principalement via l'intérim, puisque l'INSEE calcule que sur le premier semestre, 36 000 emplois dans le secteur du service seront détruits. Mais 36 000 emplois. Voilà, mais l'intérim apparaît comme la première composante d'ajustement de l'emploi. Donc, 36 000 emplois lors du premier semestre contre 64 000 lors du dernier semestre. Donc, c'est moitié moins. Hors intérim, le recul se limiterait même à 11 000 postes. C'est-à-dire que les deux tiers en fait des ajustements dans les services se font sur le dos des intérimaires. Voilà. Bon, évidemment, ça aura des répercussions sur le pouvoir d'achat, sur les salaires, etc., etc.
Merci Ludo. On s'écoute une petite chanson. On reprend la parole. Merci.
Comité réduit, foule immense, qui ce soir de votre présence me faites le don et l'amitié.
Deux, trois actions, messieurs, dames. Aïe, le travail. Grosse malade.
Et oui, c'était le sympathique Rougotte qui nous chantait « Ah, le travail, grosse malheur », une personne que nous avions invitée dans cette émission il y a de longues années déjà. Donc c'était un petit clin d'œil pour les chômeurs et chômeuses qui nous écoutent, et même les autres d'ailleurs.
Ah, c'est un peu triste, hein.
C'est un peu triste, mais en même temps c'est un peu vrai, donc voilà. Surtout dans un travail qui est pressurisé, avec des patrons et des chefs qui stressent au maximum. D'ailleurs, nous en reparlerons certainement dans d'autres émissions, de la façon dont les patrons managent leurs employés et leur entreprise.
Ce qui était... J'aime bien le terme déjà, manager.
Manager, c'est ça, c'est ça. Oui, on va faire un débriefing et un briefing aussi en même temps, donc c'est une plaisanterie. Très bien. Donc moi j'aimerais quand même, donc vous êtes toujours sur fréquence Paris Pluriel, 106.3 FM dans l'émission Mode d'emploi. Mode d'emploi, c'est l'émission des chômeurs et précaires. Et ce soir nous parlons bien sûr du Pôle emploi et effectivement de l'augmentation du chômage et bien d'autres sujets encore. Vous pouvez nous contacter pour intervenir dans cette émission en direct au 01 40 05 06 10, 01 40 05 06 10. N'hésitez pas, on ne va pas vous manger, voilà. Donc je vais reprendre la parole pour parler un peu de Pôle emploi, parce qu'il faut savoir que Pôle emploi est bien sûr bien débordé. Il faut savoir qu'il y a quand même aujourd'hui 400 000 chômeurs en fin de droit. 400 000 chômeurs en fin de droit, c'est quand même un chiffre important, qui touche exactement 15,90 € par jour, soit 470 € par mois. Donc avec cet argent, ils pourront peut-être aller au ski s'ils peuvent. Voilà. Et ces gens-là, donc ces 400 000 personnes, sont obligés tous les 6 mois de remplir un document que leur envoie Pôle emploi pour ce qu'on appelle les conditions de ressources, voilà, dans lesquelles ils marquent effectivement ce qu'ils ont travaillé, avec les périodes de travail, les rémunérations, etc. Or, le problème, ce qui se pose à Pôle emploi aujourd'hui, c'est comme Pôle emploi, les salariés de Pôle emploi sont peu nombreux par rapport à la masse de chômeurs qui viennent les voir pour régler leur dossier. Beaucoup de dossiers sont classés sans suite, c'est-à-dire que les chômeurs qui sont en fin de droit, qui sont là, qui ont rempli leurs documents, donc avec bien sûr tous les justificatifs, ils n'ont pas de réponse de Pôle emploi parce qu'en fait les dossiers ou bien se perdent ou bien n'ont pas été traités. Donc les agences locales, que font-elles? Comme elles ont trop de travail, elles donnent les dossiers, une grande partie des dossiers aux plateformes 3949, que tout le monde connaît très bien ici, voilà. Le problème, c'est qu'au 39-49, c'est pareil, ils sont en sous-effectif, et donc les dossiers s'entassent et ne sont toujours pas traités. Ce qui fait que les chômeurs de fin de droit qui devaient toucher 470 € les touchent au bout de plusieurs mois déjà. Donc c'est déjà un gros problème à régler à Pôle emploi, c'est le problème des traitements de dossiers. Donc si le gouvernement pouvait éventuellement, comme Pôle emploi est un service public, enfin on peut le citer comme ça, pouvait effectivement embaucher un certain nombre de personnel pour effectivement traiter les dossiers des chômeurs, ce serait déjà pas mal. Le deuxième problème qui se pose à Pôle emploi, c'est quand même le problème des radiations administratives qui sont absolument c'est inique, hein, si on peut dire ça comme ça, parce qu'en fait c'est pas motivé, c'est-à-dire que vous manquez un rendez-vous, vous n'avez pas répondu à l'heure, etc., vous pouvez être barré de la liste des chômeurs et donc effectivement vous pouvez plus toucher vos indemnités et après refaire le parcours du combattant pour vous réinscrire. Ce qui est absolument insupportable.
Voilà, oui, et ce qui pèse en plus dans les chiffres du chômage, puisqu'il y a un certain nombre de radiations, même si les personnes sont réinscrites après, chaque mois on a toujours cet aléa de personnes qui ont été radiées en plus pour des raisons. Ça reste des chômeurs, quoi. Quand il y a une radiation administrative, c'est pas des défauts d'actualisation, c'est-à-dire de gens qui ont éventuellement repris un emploi et qui ne se réactualisent plus. C'est pas la même chose. C'est vraiment des gens qui ne se sont pas présentés à des convocations pour x et x raisons. Ça peut être aussi que les convocations partent tout seuls, qu'ils n'étaient pas là au moment où la convocation est arrivée, ou que la convocation est arrivée trop tard, deux jours avant la convocation elle-même.
Et voilà ce qu'on entend aussi de Pôle emploi, c'est quand vous arrivez en retard de 5 ou 10 minutes, vous êtes radié. Et le chômeur dit, mais c'est pas de ma faute, il y a eu un problème dans le métro ou dans le bus ou dans le RER. Et Pôle emploi, la seule réponse qu'il leur donne, vous n'avez qu'à partir plus tôt.
J'ai pas eu de retour comme ça, parce que ça paraît vraiment unique, à moins qu'ils aient un autre rendez-vous. Après, c'est vrai que vu le nombre de personnes qui a Pôle emploi, on peut supposer que les rendez-vous sont serrés, mais de là à radier les gens directement.
Si t'as loupé un rendez-vous, t'as plus de rendez-vous pendant t'as pas de rendez-vous, t'es radié. Si t'as payé 10 minutes, c'est pour ça qu'il y a 15 jours, il y avait la CGT chômeur qui avait été gueulée là-dessus.
Oui, oui, oui.
Et qui disait, pour 10 minutes, tu peux être radié. Ça, faut y arrêter.
Oui. Non, mais moi, faut savoir quand même que les salariés de Pôle emploi sont quand même des êtres humains avant tout, et ils essayent quand même en général de trouver une solution avant la radiation. Mais souvent la radiation, des fois c'est automatique. C'est automatique. Donc c'est la machine en fait.
Si le conseiller n'a pas eu le temps d'intervenir pour l'empêcher, la radiation devient automatique. Ouais. Parce que le courrier, des fois les rendez-vous sont aussi envoyés de façon automatique. Donc, et comme ils sont en sous-effectif, ben, à un moment donné, forcément, il y a des erreurs qui se produisent.
Oui. Donc, il faut savoir quand même que chaque jour, donc je le disais tout à l'heure dans ton intervention, Ludo, chaque jour, c'est quand même 1000 nouveaux inscrits qui s'inscrivent, donc 1000 nouveaux inscrits par jour à Pôle emploi. Donc, c'est quand même c'est une somme, c'est-à-dire 1000 dossiers à traiter en plus, en supplément. Ce qui fait que ça explose en termes de bon les salariés
de délai d'indemnisation,
etc., etc.
Oui, les caisses multiplient.
Bon, tout à fait. Donc les agences locales adressent des tas de documents à saisir donc au 3949, donc à cette espèce de plateforme qui n'a pas de
téléphonique qui a été construite uniquement pour mettre à distance en fait l'enregistre, enfin les personnels de Pôle emploi des demandeurs qui venaient s'enregistrer. En raison des litiges éventuels, quoi. Donc, c'est-à-dire, c'est une mise à distance, une mise à distance du personnel qui est chargé de traiter le chômage de des chômeurs.
Donc, faut savoir que ce dysfonctionnement dure depuis décembre dernier, évidemment. Donc, ça fait quand même pas mal de temps que ça dure. Et ils n'ont pas trouvé encore de solution pour réguler ce flux incroyable de chômeurs supplémentaires.
Il était question d'embaucher des gens à Pôle emploi.
Oui, c'est exact, oui. Oui. Alors, il y a une deuxième, donc il y a un troisième problème à Pôle emploi, c'est quand même le problème de trop perçu. Alors ça, c'est un problème important parce qu'en fait,
qui a provoqué l'immolation
des chômeurs. D'ailleurs, absolument. Donc quand même, il faut savoir quand même que sur environ 300 millions d'euros, soit par cas 550 euros en moyenne par personne, qui a été versé par erreur par Pôle emploi.
Wow.
550, l'équivalent de 550, c'est énorme quoi, je veux dire. Avec donc des possibilités de demander aux chômeurs de rembourser des sommes qu'ils n'ont pas remboursées, puisque la preuve c'est qu'il y a deux personnes qui se sont immolées alors qu'elles n'avaient rien à rembourser. Il y en a une d'ailleurs des deux qui devait 8 850 euros à Pôle emploi.
Mais c'est parce que ces gens travaillent à côté, qu'il y a un problème de calcul ou qu'ils déclarent
pas. Exactement, exact. Tout à fait, oui, c'est ça. C'est ça. Donc effectivement, il y a des trop perçus. Alors des fois, c'est effectivement le chômeur qui n'a pas rendu à temps son dossier, son document, comme quoi effectivement il avait travaillé, etc. Ou bien des fois, c'est la faute de Pôle emploi qui a fait une erreur administrative.
En fait, ça veut dire que Pôle emploi contrôle de plus en plus les chômeurs, en fait, c'est-à-dire ce que leur activité, c'est-à-dire qu'ils recoupent en fait les déclarations fiscales, mais enfin c'est ou même pas les déclarations fiscales, ça voudrait dire l'URSSAF puisqu'ils devraient avoir une source qui presque en temps réel leur dit que vous avez travaillé à 3 mois, ou alors le rappel se fait un an après. Enfin,
c'est quand même incroyable.
Alors, il y a une époque où ils étaient un peu plus tolérants quand même.
Mais c'est sûr, mais il faut savoir aussi que si nous on fait une erreur, ça nous incombe. Mais Pôle emploi, des fois, ils se disent ah non, on n'a pas fait d'erreur. C'est vous qui avez mal fait, alors que des fois, c'est vous qui avez fait l'erreur et
ils ne veulent pas l'admettre. Cette obsession du chômeur qui gruge, mais enfin, le chômeur, je ne sais pas, je prends l'exemple du chômeur qui touche donc 471 euros par mois, bah oui, effectivement, il touche 200 euros de plus ou 300 euros de plus. Aller lui réclamer derrière un remboursement, c'est presque indécent, quoi, en fait. Il y a une époque où les services administratifs étaient beaucoup plus tolérants vis-à-vis des gens qui avaient déjà pas grand-chose pour vite. C'est une évidence que la personne risque de travailler, d'essayer d'une manière ou d'une autre de compenser son maigre revenu, enfin son maigre, oui, son revenu, sa maigre indemnité par autre chose, et puis que dans les déclarations, elle le fait pas toujours en temps et en heure.
Ouais. Hein. Et il faut quand même mettre un bon point au Pôle emploi, c'est suite à la dernière immolation du chômeur. Il y a un chômeur qui avait un trop perçu qui n'a pas à le rembourser. Ils ont quand même dit, il y en a assez, les immolations. Donc celui-là, on lui fait cadeau de ce qu'on a trop perçu.
Alors il faut savoir quand même que nous faisons partie. Cette émission a quand même été conçue à l'origine par AC, donc Agir Ensemble contre le chômage, hein, et ça va de soi. Donc il faut savoir que les associations de chômeurs, MNCP, donc Mouvement National des Chômeurs Précaires, l'APEIS et l'AC, on demandait à Michel Sapin, ministre de l'Emploi, mais également je lis le texte parce que je suis en train de lire un document qui vient d'eux en fait, hein, plus ou moins. Il demande que soit pris en compte le temps de réexaminer les dossiers, car dans une famille de chômeurs, c'est de l'argent dépensé, tout va à la nourriture, à la résorption des dettes. Donc faut que Pôle emploi, donc ça c'est ce qu'ils disent, et c'est vrai, donc ça c'est absolument vrai, donc il faut absolument que Pôle emploi revoit à deux fois, on va dire ça comme ça.
Ils réfléchissent à deux fois.
Merci Ludo, réfléchissent à deux fois avant de demander au chômeur de rembourser une dette qu'il n'a pas à payer, hein, donc à rembourser. Très bien, je vais arrêter sur ce sujet. Je pense qu'on peut peut-être, si Claude est d'accord, écouter une petite chanson. Peut-être le CD de Mouron ou hein, voilà. Ou... Merci Claude. C'était Mouron. Non, c'est pas grave. C'était un petit problème technique, mais ça peut arriver aussi dans une association de militants.
Dans un direct.
Dans un direct. Donc, c'est effectivement, donc vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM dans l'émission Mode d'emploi. Numéro de téléphone 0140 05 06 10. 0140 05 06 10. Appelez-nous, donnez vos réactions, apportez vos savoirs. Il n'y a pas de souci. Nous sommes très ouverts dans cette émission, dans cette station. Alors nous reprenons cette émission avec, bien sûr, vous avez venez d'entendre Mouron qui chantait donc la quête de Jacques Brel. Voilà, quand tout dérape, il reste peut-être un peu l'amour, mais l'amour, des fois, il faut un peu d'argent aussi pour pouvoir se... Voilà.
L'amour est d'eau fraîche.
L'amour est d'eau fraîche, voilà. Merci Ludo. Très bien. Donc nous reprenons cette émission sur quelque chose qui va nous fâcher aussi un petit peu, c'est effectivement l'accord de sécurisation des parcours professionnels ou plus ou moins l'accord national interprofessionnel, donc l'ANI, qui va être donc au Parlement courant avril, je crois que c'est le 7 avril ou le 10 avril, je ne sais plus. En tout cas, le 9 avril, il y a effectivement une coordination de gens qui vont voter, qui vont manifestation, c'est ça, Ludo ?
C'est une manifestation.
Ah, c'est une manifestation,
oui,
merci,
oui.
Merci pour la précision.
Mobilisation voilà. Interprofessionnelle.
Donc, donc, dans le cadre de ces accords, le MEDEF a donc porté très haut ses valeurs et je crois qu'ils ont quand même pas mal gagné. Je crois même, si mes souvenirs sont bons, que un membre du gouvernement avait félicité Mme Parizeau pour avoir tenu...
C'était Manuel Valls, peut-être ?
Manuel Valls, c'est possible. En tout cas, pour en savoir un peu plus sur ces problèmes de sécurité de l'emploi et des parcours, je vous propose d'écouter Catherine Lebrun, du syndicat solidaire Pôle emploi.
Conclure cette table ronde et donner la parole à une représentante syndicale d'organisation syndicale de salariés, en l'occurrence Catherine Lebrun pour Union syndicale solidaire, qui, j'espère, va nous donner des perspectives de mobilisation future.
Qu'est-ce que c'est que cette pression là ? Non, pour revenir sur quelques points, plusieurs interventions ont d'abord parlé de la question démocratique au travers de cet accord et ce projet de loi. Je dirais une première chose, c'est si nous avions, en tout cas dénoncé en son temps, la méthode de Sarkozy du passage en force, la dénonciation des corps intermédiaires, là je crois que la méthode Hollande, elle est, si je puis dire, presque plus perverse. Hein, parce que l'idée de survendre le dialogue social sans en occultant le débat sur le fond, et de façon à, en tout cas après à dire, bon, voilà, les partenaires sociaux se sont entendus, donc nous ne pouvons que valider l'accord. Donc c'est une méthode assez perverse, même si on est pour le dialogue social, mais le problème d'un dialogue social sans rapport de force, on voit où ça mène. Donc c'est un premier problème. La deuxième question sur l'aspect démocratique, c'est Pierre Laurent qui le mentionnait, que bon, François Hollande n'avait pas dit dans son programme qu'il allait en tout cas valider un tel accord. Mais je pense que la question se pose aussi pour les organisations syndicales. Il n'y a pas non plus de chèque en blanc pour les organisations syndicales entre deux élections professionnelles pour signer n'importe quoi. Donc je pense que ça s'adresse aussi aux organisations syndicales. Donc il ne faut pas l'oublier. La question démocratique est aussi importante de ce point de vue-là. Donc je voulais d'abord souligner ça. Et en termes de tout ce qui tourne, ce qui a été évoqué sur la flexibilité et la précarité, ça fait quand même 30 ans que des mesures de flexibilité et de précarité sont prises, hein, quels que soient les gouvernements. Je rappelle pour mémoire, ne serait-ce que sur la question du temps partiel, rappelons-nous que c'est sous l'ère Mitterrand qu'a été favorisé le recours au temps partiel avec des exonérations de cotisations patronales, et qu'à l'époque, malheureusement, le mouvement syndical a peu protesté. C'est le mouvement féministe qui a été en avant sur cette question-là, dénonçant ces mesures, et disant déjà à l'époque que c'était les prémices d'une précarité généralisée à venir. Donc on voit bien que les mesures de précarité et de flexibilité ne datent pas d'aujourd'hui, mais ceci dit, il est évident que ce projet de loi qui reprend quasi intégralement l'accord est une attaque majeure. Et là, il ne s'agit pas, et je parle là, du point de vue syndical, il ne s'agit pas d'une nuance entre nous. Il y a vraiment, ils ont une divergence de fond avec les signataires de cet accord, parce qu'il n'est ni plus ni moins question d'un profond bouleversement du modèle social. C'est ça ce dont on parle. C'est pas des mesures à la marge. Donc c'est un vrai bouleversement, et là, il y a une vraie fracture. Il faut dire les choses telles qu'elles sont, et qu'il est impossible de pouvoir justifier la signature d'un tel accord, et en plus de le vendre et de le survendre dans ses publications. Donc il y a un vrai problème de ce point de vue-là, il y a une vraie fracture. Et malheureusement, les dossiers à venir sur les retraites et la protection sociale, on aura sûrement affaire à ce type de fracture, et de profonde, sur en tout cas les projets de modèle social qu'on défend les uns et les autres. Donc c'est assez inquiétant de ce point de vue-là, il faut être assez lucide sur cette question. Alors, ça a été dit aussi, je vais pas redécortiquer ce qu'il y a dans l'accord, notamment tout ce qui tourne autour des licenciements, qui est quand même un morceau assez important de cet accord, qui libéralise totalement les licenciements, qui réduit les délais de recours, enfin qui ampute totalement le pouvoir des élus, enfin bon. C'est vraiment, et sur le problème des CHSCT, d'autres peut-être en parleront, là aussi la réduction du pouvoir des CHSCT, quand on connaît les conditions de travail et le taux de suicide dans plusieurs milieux de travail, c'est quand même hallucinant. Donc moi je pense qu'effectivement, comme ça a été dit dans plusieurs interventions, qu'il faut évidemment recentrer le débat sur des questions essentielles. Ça a été dit sur la question de la réduction du temps de travail avec embauche correspondante, hein, parce que là aussi, il faut peut-être améliorer aussi la loi Aubry telle qu'elle était prévue. Donc, en tout cas, c'est évidemment une revendication centrale qui est malheureusement là aussi est très peu reprise dans le mouvement syndical, très peu reprise, et pourtant c'est effectivement central. Il y a aussi une deuxième revendication qu'il faut remettre au centre des débats, c'est le partage de la valeur ajoutée entre salaire et profit. Ça me paraît essentiel là aussi. Ça a été évoqué à un certain moment dans les débats, souvenez-vous, sous Sarkozy, les trois tiers, enfin bon, bref, il n'y a plus personne n'en parle, donc c'est un vrai souci. La deuxième question, c'est tout ce qui tourne autour des licenciements, je pense que Martine Billard en parlera, mais c'est évidemment à l'inverse de ce qui est contenu dans l'accord, c'est au contraire encadrer strictement les licenciements, y compris revenir sur la redéfinition du licenciement économique. Il y aurait beaucoup à dire. Une interdiction effective des licenciements dans les entreprises qui font des bénéfices, je dis bien effective. Et puis, il y a évidemment ce qu'a évoqué Stéphanie, c'est tout ce qui tourne autour du statut du salarié, qui nous, en tout cas, nous tient à cœur, qui permettent d'avoir des droits aussi bien quand on est salarié des PME que des grandes entreprises, et qui soient, en tout cas, financés par un fonds patronal, et qui prennent la responsabilité sociale des dégâts qu'ils génèrent. Bon. Donc, on voit bien qu'il y aurait des vrais débats de fond, qui sont vraiment des réponses alternatives à ce qui nous est proposé. Donc, évidemment, cette bataille-là suppose un rapport de force de haut niveau. Ne nous cachons pas, hein, que ce soit dans les entreprises ou dans les branches, les camarades du commerce pourront le dire, ou que ce soit sur... oui, j'ai pratiquement fini. Et que ce soit sur... en tout cas, sur des luttes pour faire converger... notre but de faire converger les luttes, je commence à être fatiguée, ça suppose un haut niveau. Ne nous cachons pas quand même qu'on voit bien, y compris dans les autres pays européens qui sont confrontés au même type de mesures, même si c'est à des degrés divers, des fois de manière beaucoup plus brutale. Néanmoins, on voit bien que le rapport de force qui est nécessaire pour faire reculer les gouvernements et pour en tout cas bloquer ces projets antisociaux, ça suppose un niveau de lutte assez important. Donc, et ça suppose, de notre part, que ce soit organisation politique, association ou syndicat, vraiment d'essayer, en tout cas, de convaincre les salariés qu'il n'y a pas d'autre issue que le rapport de force sociale et non pas, disons, des mesures juridiques ici ou là qui amélioreraient un tant soit peu ce type de projet de loi. Donc je crois que c'est un long chemin qui reste à parcourir. Alors il n'y a pas qu'au niveau national. Je rappelle aussi qu'au niveau européen, il y a des perspectives, même si elles sont lointaines, mais néanmoins, elles visent aussi à lutter contre les politiques d'austérité et ce type de mesures, puisqu'il y a un intersommet en Grèce en juin, qui, en tout cas, a l'objectif, y compris de là aussi au niveau européen, d'avoir des convergences pour lutter contre ces politiques d'austérité. Et toute lutte au niveau européen renforcera chaque lutte au niveau national. Donc voilà, au-delà du 5 mars, on a beaucoup à faire.
Ouais. Donc, Martine Billard pour le Parti de Gauche.
Merci. Alors, c'est vrai que le MEDEF rêvait d'une telle loi depuis longtemps, puisque ce qui est dans cette proposition de loi, ce projet de loi, peut-être, parce que c'est le gouvernement, était dans ce qu'on a appelé les 40 mesures du MEDEF, vous le trouvez sur le site du MEDEF. Le MEDEF a déjà obtenu la moitié de ses 40 mesures sous le gouvernement de droite, et visiblement, il espère bien obtenir le reste de ses 40 mesures sous un gouvernement de gauche, en tous les cas qui se dit de gauche. Je rappelle quand même que le PS s'est battu au Parlement contre l'inversion des normes. Or aujourd'hui, cette loi continue à aggraver cet abandon de la hiérarchie des normes qui faisait que tout accord d'entreprise devait être plus favorable que les accords de branche ou que la loi. Quand le gouvernement nous dit « mais il y a un accord entre partenaires sociaux », c'est quand même scandaleux que vous puissiez contester le fait qu'il y a un accord entre partenaires sociaux. D'abord, ça a été dit, cet accord est minoritaire. Et deuxièmement, depuis quand les accords entre partenaires peuvent être supérieurs à la loi? Et ce qui est dramatique, c'est que François Hollande a annoncé pendant sa campagne, il a redit depuis, qu'il voulait inscrire dans la Constitution le principe que des accords puissent être supérieurs à la loi. Alors si on part avec une telle décision, une telle inscription dans la Constitution, ça veut dire que finalement, demain, d'ailleurs, c'est plus la peine de réunir le Parlement sur tout ce qui concerne le Code du travail, et ça veut dire que quand on est en situation de mauvais rapport de force, c'est le MEDEF qui décide d'écrire la loi. Et ça, c'est pas admissible, on ne peut pas accepter que le MEDEF écrive le Code du travail dans notre pays. Dans les points... Dans les points qui sont inadmissibles et qui donnent lieu à des conflits en ce moment, c'est le fameux accord de mobilité. Mais l'accord de mobilité, finalement, c'est vieux comme le patronat. C'est-à-dire vouloir baisser les salaires, augmenter le temps de travail, ça a déjà existé, c'était déjà dénoncé par Marx à son époque. Or, ça a été tenté déjà sous le gouvernement Sarkozy. Et Alain Vidalis, que je respecte beaucoup parce que j'ai mené beaucoup de batailles avec lui sur le Code du travail quand j'étais député, disait « La Cour de cassation, c'était à propos d'une remise en cause justement d'un arrêt de la Cour de cassation, la Cour de cassation donne à tout salarié la liberté de refuser cette modification de son contrat. C'est une liberté que vous voulez lui retirer. Ce n'est donc pas une simplification, c'est une régression. C'est exactement ce qui est dans l'accord Annie et ce que le gouvernement veut transposer dans la loi. » En deuxième lecture, il disait « Cet article, qui porte sur les modulations du temps de travail, prend naturellement une toute autre ampleur politique, compte tenu des propos du président de la République sur votre aspiration à instaurer des accords compétitivité-emploi, dont l'objectif serait évidemment de toucher aux conditions substantielles du contrat de travail. » Alors ce que Alain Vidalis dénonçait sous Sarkozy, pourquoi est-ce que ce gouvernement, le gouvernement du Parti Socialiste, va l'imposer aujourd'hui aux travailleurs? Alors quand vous allez aller interpeller vos parlementaires, n'oubliez pas de leur répéter ce que disaient les parlementaires socialistes sous Sarkozy, parce qu'il n'y a pas de raison que sous un gouvernement de droite, ils tiennent un discours et qu'ensuite au pouvoir, ils fassent exactement le contraire. Ça, on ne peut pas l'admettre. Pour terminer, je dirais que... il faut se battre contre, bien évidemment. Il faut être dans la rue de 5. Il faut partout expliquer. Il faut multiplier toutes les initiatives. Et il faut aussi faire des propositions pour. Alors, au niveau du Front de Gauche, vous savez qu'il y a eu une proposition de loi qui avait été déposée contre les licenciements boursiers. On l'a appelé ainsi. Plusieurs syndicats d'entreprises, vous pouvez remarquer que cette proposition était insuffisante. Par exemple, ça ne concernait pas les travailleurs de Sanofi. Parce que chez Sanofi, ce ne sont pas des licenciements, ce sont des suppressions de postes. C'est beau le vocabulaire patronal. Et... à la fois, il y a les fameuses suppressions de postes et puis il y a la rupture conventionnelle. Alors, cette proposition de loi, nous sommes en train de l'améliorer et nous la mettons au débat. Nous proposons donc d'avoir des dispositifs préventifs avec la restriction des critères de licenciement économique et que les licenciements économiques ne soient possibles qu'effectivement en cas de difficulté d'entreprise. Par exemple, si vous prenez les entreprises qui faisaient les cassettes audio, c'est sûr que quand les cassettes audio ont disparu, c'était difficile de dire que c'était scandaleux que l'entreprise ait des difficultés et qu'à le faire. Donc il y a des cas précis malheureusement où il y a des difficultés. Mais en dehors de ces cas, la procédure de licenciement économique ne doit pas être acceptée. C'est aussi le fait de redéfinir ce qu'est un licenciement économique avec cause réelle et sérieuse. Et nous considérons que lorsqu'il y a distribution de dividendes, lorsqu'il y a distribution de stock-options, lorsqu'il y a des salaires mirobolants pour les hautes directions des entreprises, il ne peut pas y avoir de licenciement économique. Ce n'est pas acceptable. Et nous proposons... ça, ce sont les mesures préventives. Et dans les mesures préventives, nous proposons, sur la base de l'arrêt vidéo, effectivement, que le juge puisse juger au fond. C'est-à-dire que le juge puisse examiner au fond, la proposition de plan social portée par un patron, parce qu'à l'heure actuelle, comme l'a dit Yann, le problème, c'est que des années après, ils peuvent décider, la justice peut décider que finalement, il n'y avait pas lieu de licencier, mais entre-temps, des fois, la boîte a fermé. Vous avez vu que c'est ce qui vient de se passer pour les Conti. Hein, le plan social est annulé, mais pour l'instant, les travailleurs, ils vont avoir peut-être du mal à être réintégrés. Donc, il faut qu'il y ait un jugement, au fond, préventif. Et sur les ajouts, nous voulons un qui est remboursement des exonérations de cotisations sociales lorsqu'il y en a eu et qu'il y a un licenciement abusif décidé par la justice. Nous voulons mettre fin au détournement du seuil des 10 salariés licenciés en licenciement économique, parce que combien de petites boîtes licencient 9 par 9, ce qui fait qu'il n'y a plus de protection collective. Et nous voulons évidemment en finir avec la rupture conventionnelle, et nous voulons rétablir, par rapport à ce qui est donc dans l'ANI entre autres, rétablir la notion de licenciement économique au cas où un salarié refuse individuellement la modification de son contrat de travail, comme ce qui est en train de vouloir être imposé en ce moment chez Renault. Parce que ce qui se passe, c'est qu'effectivement, avant, un salarié pouvait refuser individuellement un accord d'entreprise qui imposait ces modifications substantielles du contrat de travail, c'est-à-dire salaire ou temps de travail. Ça a été déjà modifié sous Sarkozy. L'ANI veut encore aller plus loin, et c'est ça que nous n'acceptons pas, c'est-à-dire que des travailleurs peuvent avoir individuellement la possibilité de refuser cette modification et que dans ce cas-là soit considéré comme un licenciement économique avec les droits y afférents, c'est-à-dire droit au reclassement, droit à indemnité et ainsi de suite. Voilà la bataille qu'il faut mener, c'est une bataille contre, mais c'est aussi une bataille pour de nouveaux droits pour les travailleurs, et c'est comme ça qu'on fera progresser le débat dans notre pays.
Vous avez entendu en premier lieu Catherine Lebrun, donc de Solidaire, du syndicat Solidaire Pôle emploi, et en second, Madame Martine Billard, donc qui est bien du parti de gauche et non pas du front de gauche. J'avais confondu parti et mouvement. Voilà, donc je rectifie le tir. Voilà. Donc peut-être une réaction sur ce qui vient d'être dit. De toute façon, Martine Billard, je trouve qu'elle dit tout à fait ce que nous pensons tous ici depuis des années. Ça a l'air d'aller de soi, quoi. Je veux dire.
Bah surtout, elle a évolué. Elle est passée des Verts au front de gauche.
Oui, je la connaissais quand elle était chez les Verts, mais déjà chez les Verts, elle était déjà très à gauche.
Disons que. En même temps, elle a des arguments. Ouais.
En même temps, elle a des arguments. Voilà.
Écoute, ça tombe bien parce que moi, je voulais rebondir. Alors pas sur l'ANI, parce que.
Bien sûr.
Voilà, on en a beaucoup parlé. Voilà, mais plutôt en fait. Sur un rapport de l'Organisation internationale du travail qui parle de l'emploi en 2012. Donc rappelons qu'en fait l'Organisation internationale du travail, c'est l'organisation internationale d'extrême gauche des organisations internationales. Je veux dire par là qu'évidemment quand elle pond quelque chose, ça n'a rien à voir avec ce que pond le FMI et l'OCDE, et donc c'est l'organisation qui avait déclaré illégal le CNE et le CPE de Monsieur Villepin, et qui pond à nouveau un rapport. Oui, alors entre autres, elle avait déclaré effectivement illégal le CPE et le CNE, la période d'essai qui était de 2 ans. Je ne sais pas si vous vous souvenez.
Oui, très bien. Oui.
Mais en plus, elle pond effectivement des recommandations sur l'emploi qui sont surtout pas appliquées, notamment par les pays anglo-saxons. Donc là, elle pond un rapport sur l'emploi de 2012 et sur les politiques des pays, et notamment des pays développés, des politiques économiques et des politiques de l'emploi. Et qu'est-ce qu'elle dit ? Alors, je vous prends juste une page seulement du rapport. Enfin, c'est la synthèse du rapport, du résumé du rapport. Elle dit que avec les politiques d'austérité, de nouvelles mesures de dérégulation du marché du travail ont été annoncées. Et, dit-elle, elles ont été prises dans l'espoir de voir les marchés financiers réagir de manière positive, stimulant ainsi la confiance, la croissance et la création d'emplois. Donc, en résumé, en période de crise, il faut abaisser les protections des salariés. C'est ce que fait l'ANI, en fait, hein, c'est une vieille logique, pour réussir en abaissant les salaires, en mettant plus de flexibilité à... Lutter contre le chômage. Ces attentes ne se sont toutefois pas concrétisées, elle écrit d'elle. Dans les pays qui ont poussé le plus loin l'approche austérité plus dérégulation, donc elle pense ici à l'Espagne, à la Grèce et au Portugal et à l'Italie, principalement donc ceux d'Europe du Sud, la croissance de l'économie et de l'emploi ont continué de se dégrader, dit-elle, et dans de nombreux cas, ces mesures adoptées n'ont pas non plus réussi à stabiliser leur position budgétaire. Bon, donc je passe, c'est ce que tout le monde dit, c'est-à-dire qu'en fait, à force de mener des politiques d'austérité, on ne comble pas le déficit budgétaire, mais en plus, on pénalise l'emploi. Et donc, là, je vous demande votre attention. Quant aux politiques de dérégulation, le rapport estime qu'elles ne permettront pas de relancer la croissance ni l'emploi à court terme. Une raison pourtant cruciale en période de crise. Voilà. En période de récession, une réglementation moins contraignante pourrait conduire à davantage de licenciements, sans contribuer pour autant à la création d'emplois. C'est pas, donc ce n'est pas nous qui le disons, c'est l'OIT. De même, un affaiblissement de la négociation collective enclencherait sans doute une spirale à la baisse des salaires, retardant d'autant la reprise économique. De manière générale, le rapport confirme les conclusions d'études menées précédemment indiquant qu'il n'existe pas de lien clairement établi entre réforme du marché du travail et niveau de l'emploi. Fait intéressant dans la situation se trouve, la plupart des pays, des réglementations de l'emploi appropriées sont généralement associées de manière positive à l'emploi. Mais des régulations mal conçues, alors elles passent, peuvent altérer les phénomènes du marché du travail tout de même. Voilà. Donc elle dit, dans ce cas, il y a des raisons d'envisager des réformes dans le cadre du dialogue social et de les accompagner de mesures de protection sociale. Voilà, ce qu'on cherche encore dans l'ANI, puisque toutes les négociations importantes sur, je sais pas, la portabilité des droits sont reportées à des négociations ultérieures. Enfin, de ce fait, il devient crucial de prolonger l'approche actuelle basée sur la relance de la demande interne en la complétant par une meilleure application des normes fondamentales du travail et par des mesures de lutte contre les flux de capitaux déstabilisateurs. Donc je vous passe le reste, elle développe toute une analyse des approches alternatives. Disent grosso modo il faut essayer de faire des coupes mais surtout pas déréglementer le marché du travail. Voilà, en conclusion,
on a encore une petite minute. Ce que nous dit l'OIT, en fait, ça va dans le sens de ce que nous disions depuis toujours dans cette émission, finalement.
Je veux dire, on est en période de crise, donc effectivement, on sait qu'en période de crise, si vous faites les deux, pour tout vous dire, et on en reparlera pour la prochaine émission, en ce moment, je lis un livre donc qui s'appelle « Pas de pitié pour les gueux » de Laurent Cordonnier. Et donc, le sous-titre, c'est « Les analyses économiques du chômage ». Et donc, ce livre développe toutes les théories économiques néoclassiques du chômage. Donc, les théories néoclassiques du chômage, c'est il faut supprimer toutes les régulations au marché du travail, aux entraves au marché du travail, pour arriver au plein emploi. Voilà. Or, finalement, là, c'est... au moins dans les pays du Sud, c'est ce qu'on est en train de faire. Mais l'auteur précise bien que finalement, juste le marché du travail, juste vu par le marché du travail, et sans prendre en compte les débouchés, en fait, il conduit simplement à un affaiblissement des revenus du travail, et il est en quelque sorte contre-productif. Je veux dire, c'est exactement l'inverse de ce que disaient d'autres économistes, les keynésiens. Quand on soutient la demande en période de crise, on arrive à stabiliser la récession. Et donc là, on a à la fois une crise budgétaire profonde, une augmentation du chômage, et on fait exactement le contraire de ce qu'il faudrait faire pour... C'est-à-dire qu'en réalité, on sacrifie sur l'autel de questions financières l'emploi des gens, et surtout on pénalise l'activité économique à l'arrivée.
En gros, si je comprends bien, la rigueur entrave un peu la relance, quoi.
C'est exactement ça, sauf que les politiques publiques n'ont pas prévu de faire de politique de relance.
C'est ça.
C'est-à-dire qu'il y a les deux, c'est-à-dire que la rigueur sans rien.
Mais il y a un truc à faire, c'est pénaliser les patrons qui embauchent des gens à double poste.
Oui. Bon, messieurs, je vais être obligé de vous couper parce qu'en fait, cette émission se termine. En tout cas, je vous remercie à tous. Merci pour ton analyse.
C'est pas la mienne.
Merci, messieurs, d'avoir fait cette émission avec moi. Merci, auditrices, auditeurs, de l'avoir écouté, entendu. Bien sûr, je vous dis évidemment la semaine prochaine, parce que nous ferons cette émission, la semaine prochaine. Cette émission, c'est la dernière, c'est cinquième vendredi du mois. Voilà. Oui. J'ai du mal ce soir. Donc, je fais un gros bisou aux filles et une grosse poignée de mon garçon. N'oubliez pas d'être dans la rue le 5 avril pour lutter contre l'ANI. Si j'ai bien compris l'intervention de Catherine Billard, ou le 5 ou le 9,
c'est le 7. Plus.
C'est le 7, pardon. Le 7, merci Ludo. À la semaine prochaine. Bisous à tous. Ciao.
Bisous, même aux salariés.
Et même aux chômeurs.
Oui. Voilà. Merci.